Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Radio Présence Figeac 97.7. Et nous nous retrouvons cette semaine donc avec en interview Christophe Arleston. Christophe, bonjour. Comment allez-vous ?
Eh bien, très bien. Très très bien.
Alors, on va parler un peu de votre enfance, comme je fais à chaque fois. Alors, j'ai lu dans Google, parce que c'est mon assistant préféré. Vous êtes donc né à Aix-en-Provence en 1963, mais vous avez fait une partie de votre enfance, à Madagascar, c'est vrai ?
Oui, tout à fait. À l'âge de 2 ans, je me suis retrouvé à vivre avec mes grands-parents, qui étaient profs itinérants et beaucoup à Madagascar, oui.
D'accord.
Et en fait, je suis revenu en France pour les années de collège et de lycée, où je me suis retrouvé à Mâcon, donc ça m'a fait un choc après une enfance malgache.
Oui, je vous dis ça.
Et c'est très drôle parce que j'ai quitté Mâcon en 1980 en me disant que je remettrai jamais les pieds dans cette ville. Et puis aujourd'hui, je travaille avec le groupe Bambou dont le siège est à Mâcon.
Oui, tout à fait. Et en plus, la coïncidence, c'est que l'émission de la dernière fois, on a interviewé Olivier Sulpice, et justement, il a parlé de Dracou, mais on y reviendra tout à l'heure, vous inquiétez pas. Est-ce que, du coup, à l'époque, vous êtes revenu, donc à l'époque des années collège, c'est quoi les BD qui ont bercé votre enfance?
Alors, c'est très marrant, parce que moi, j'ai pris un petit peu tout à la fois dans le désordre et à l'envers. J'avais des oncles et tantes qui étaient des grands lecteurs de Charlie Hebdo, donc quelque part j'ai presque appris à lire et à écrire avec Reiser et Volinsky. Et puis en même temps, dans une maison de vacances où on allait, il y avait des vieux Spirou des années 60, donc je remettais toutes les collections en ordre et puis je lisais toutes les histoires à suivre qu'il y avait dans ces vieux Spirou. Et je me souviens que je devais avoir 12-13 ans quand on m'a abonné à Pilote, qui était mensuel depuis peu. Donc il y a eu ce mélange de Spirou, de Pilote, de toute l'équipe de Charlie. Et puis très vite je me suis passionné pour la BD, donc je me suis mis à acheter tous les magazines qui commençaient à exister dans les années 70, c'est-à-dire Métal Hurlant, Flic Glacial, L'Écho des Savanes, à suivre un peu plus tard, voilà. Et puis évidemment derrière les grands classiques, Lucky Luke, Astérix, Gaston, tout ça. Tout ce qui fait la nouveauté des années 2023, Gaston, Lucky Luke, Astérix.
Exactement.
C'est assez glaçant, ça, par contre.
J'allais dire, on ne change pas les recettes qui marchent, parce qu'à chaque fois, ça remarche. Par contre, je vais faire un peu le curieux avant d'attaquer votre carrière. Votre véritable identité, c'est Christophe Pélenc. J'espère que je prononce bien. D'où est venu donc le pseudo de, parce que je crois que c'est même Scotch à l'Eston.
Oui, au début, c'était... Alors, tout ça, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que, en fait, j'ai commencé une carrière de journaliste, et puisque j'ai fait une école de journalisme, et même de journalisme radio, à France Inter en particulier. Et assez rapidement, je suis passé du côté production, puisque dans la grande maison ronde, il y avait les rédactions et la production. Et je me suis mis à écrire aussi des fictions audio, des fictions radiophoniques pour une émission qui s'appelait Les Nouveaux Maîtres du Mystère et Les Mille et Un Jours de Pierre Billard. Et il se trouve que, j'avais déjà donc mon nom Christophe Pélenc en tant que journaliste à la rédaction. J'avais gardé ce nom de Christophe Pélenc pour les dramatiques radio, les fictions radio, et je voulais absolument faire de la bande dessinée. Il se trouve que la bande dessinée était encore quand même assez mal vue, c'était pas quelque chose de sérieux, donc je pouvais pas faire de la bande dessinée sous le même nom. Et j'étais obligé de prendre un pseudonyme. Donc, j'ai pris ce pseudonyme dont je sais absolument plus d'où il sort, c'est vraiment... il faut dire que j'avais commencé dans les premières radios libres aussi au début des années 80, donc ça j'avais fait beaucoup d'antennes sous des tas de pseudonymes divers, dont celui de Scotch Arleston à un moment donné. Coup de bol parce que pendant longtemps je me suis aussi fait appeler John W. Duglandin, donc j'ai bien fait de garder Arleston.
Oui.
Et donc voilà, le jour où j'ai commencé à être publié en BD, je me suis dit qu'il fallait prendre un pseudo pour différencier toutes ces activités. Et puis j'ai laissé tomber le scotch assez rapidement au bout de quelques années parce que bon voilà, il y a des pseudos qui sont rigolos à 20 ans et puis passé les 30 ans, on se dit que non, ça va, on va revenir un petit peu plus sérieux quoi.
Et donc, si j'ai bien vu, parce que pour dire dès le début, vous avez fait donc vos débuts de scénariste, c'était dans la série et dans le magazine, pardon, de Glénat, Circus.
Oui, les toutes premières planches publiées étaient dans Circus, en effet, avec à l'époque, c'était tout ce côté où on n'envisageait pas de commencer autrement que par des histoires complètes, des pages dans les magazines. Moi, j'avais été gros lecteur de tous les magazines, donc voilà, pour moi, c'était vraiment un cheminement logique de commencer à faire ses premières armes dans un magazine.
Tout à fait. Et ensuite, donc, j'ai vu que je crois que c'est en 1990 que vous allez rencontrer Monsieur Mourad Boudjelal et que vous allez travailler pour les éditions Soleil. C'est la grande époque de Christophe Alastor, on peut dire, non?
Moi, quand j'ai connu Mourad, ça devait être en 90-91, il avait juste une petite librairie grande comme un garage dans une rue un peu pourrie du vieux Toulon. Et puis il roulait dans une vieille Golf orange toute pourrie. Et il commençait, en fait, il commençait à peine le logo Soleil, puisque c'était un logo MC avant, où il republiait principalement beaucoup de vieilles séries de Dupuis qui étaient sorties dans le journal de Spirou et dont Dupuis n'avait pas voulu faire d'album. Comme lui n'avait absolument, il n'y avait pas de salarié, il n'y avait pas de charge, il y avait donc pour lui vendre 4-5 000 exemplaires d'un bouquin, il s'y retrouvait, alors que pour une grosse maison comme Dupuis, ça valait pas le coup quoi.
Et j'ai vu donc après c'est dans le 92, mais c'est là que vous avez commencé à sortir, je me trompe pas, les maîtres cartographes avec Laudel et même Léo Laudel, c'est cette époque-là aussi.
Oui, c'est les premiers albums, je sais plus lequel des deux est sorti en premier, mais c'est quasiment à quelques mois près, Léo Laudel et les maîtres cartographes, ça a été les deux premières séries. Donc ça voulait dire qu'on avait signé en 91, quoi, le temps de faire les bouquins et qu'ils sortent. 91, 92, les débuts. Pendant ce temps, lui, Mourad, avait eu la chance d'éditer Raon, donc ce qui lui donnait déjà un petit peu plus de solidité aux éditions Soleil. Et puis après, en 94, alors entre-temps, j'avais commencé aussi le chant d'Excalibur et les Feux d'Askel avec Jean-Louis Mourier. Et puis 94 arrive l'Enfeust, donc là, c'est l'explosion à la fois pour moi en tant qu'auteur et puis pour Soleil en tant que maison d'édition.
Et bien justement, alors, je vais parler en tant que fan et non pas en tant qu'animateur radio. Moi j'avoue, j'ai kiffé l'Enfeust et j'aime encore malgré mon âge avancé maintenant. Non, tu rigoles pas, Armand, s'il te plaît. Mais c'est vrai, j'aime beaucoup. Donc, comment vous est venue l'idée de créer cet univers? Parce que après, ça va se décliner en d'autres séries et tout. Comment ça vous est venu?
Alors, d'où viennent les idées? Ça, on n'en sait jamais trop rien. C'est toujours quelque chose de très complexe. Ça vient de tout un ensemble de lecture, enfin c'est une vie entière de lecture, de doc, de romans, de films, de tout ça se mélange, c'est un terreau, un compost dans le cerveau, et de ce compost remonte parfois quelques bulles, des idées, pourquoi, comment, on n'en sait jamais rien. Ce que je sais, c'est que j'avais pas envie de faire de la fantasy sérieuse, moi j'aime bien quand il y a de l'humour. En réalité, j'ai pas eu l'impression, même si finalement j'ai fait une grande partie de ma carrière autour de la fantasy, je me considère pas comme un auteur de fantasy, je suis pas un spécialiste du genre du tout. Moi je suis avant tout un auteur d'humour, qui va faire de l'humour dans le polar avec Léo Laudel, qui va faire de l'humour dans la fantasy avec les trolls ou avec l'Enfeust, mais j'ai l'impression d'être avant tout un auteur d'humour.
Et justement, voilà, vous parlez de Troll de Troie et tout, et j'ai vu, donc vous avez créé, je crois que c'était en 1997, du coup, le Goth Ferdom, j'espère que je dis bien studio, avec Tarquin et Pelé, je crois, les deux dessinateurs.
Tarquin, Pelé, Dominique Latil.
Dominique Latil.
La base, et puis très vite, on s'est retrouvé une quinzaine.
Et c'est la même année, je crois, où l'année d'après, vous avez fait le L'Enfeust Mag, qui a très bien marché aussi.
Oui, on avait un local, on avait un studio, on avait donc les membres fondateurs du studio et puis plein de jeunes dessinateurs qui étaient là. Les jeunes dessinateurs à l'époque, c'était Guillaume Bianco, Olivier Duteau, Joachim Diaz, et puis beaucoup qui sont passés après sont arrivés Alessandro Barbucci, sont arrivés Nicolas Carmidas, Alberto Varanda, enfin voilà, beaucoup de monde est passé par Rotterdam. Mais donc on avait ce local, on avait cette émulation, ce côté bande de copains en train de bosser sur de la BD, et les journaux dont je parlais tout à l'heure avaient disparu. Métal Hurlant avait fermé, Flux Glacial survivait, mais L'Écho des Savanes était devenu quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec la BD. Enfin voilà, on avait Pilote, Charlie, tout ça avait disparu. Et moi j'étais un enfant de la presse magazine BD. Donc un jour je suis rentré dans le bureau de Mourad et je lui ai dit, écoute, je t'ai fait gagner énormément d'argent, maintenant je vais t'en faire perdre, on va faire de la presse. Bon, finalement on a réussi à pas trop en perdre, parce que l'Enfest Mag a vite marché, mais pour moi c'était pas compliqué à concevoir, justement grâce à cette formation de journaliste, je savais monter un chemin de fer, diriger un journal, et donc pour moi ça a été quelque chose de très important qui était concomitant à l'existence du studio, d'avoir ce magazine dans lequel je pouvais lancer des nouveaux auteurs, des jeunes auteurs, puisque dans le magazine, évidemment, on publiait des histoires à suivre qui étaient les albums déjà signés par Soleil, donc je faisais mon marché dans ce qu'avait signé Mourad, et en plus, j'avais toutes ces pages, ces histoires courtes ou ces gags en une page, où là, je pouvais tester, moi, des nouveaux jeunes auteurs, partant toujours du principe que c'est bien de faire ses premières armes sur quelques pages avant de pouvoir se lancer dans un album en entier.
Alors, comme vous dites, voilà, de découvrir de nouveaux auteurs, je rebondis ce qu'on avait dit au début, c'est parce que depuis récemment, maintenant, depuis 2018, je crois, vous dirigez donc le label Dracou, avec la complicité d'Olivier Sulpice, de Bambou. Comment vous a-t-il proposé ce projet?
Alors, en fait, il faut que tout ça vienne du fait que déjà Mourad avait revendu Soleil en 2011 à Guy Delcourt, que au fil des années, l'Enfest Mag commençait à avoir de moins en moins de lecteurs, comme beaucoup de la presse papier. Hein. La presse papier s'est retrouvée quand même en grande difficulté à partir des années 2010. Et un beau jour, Olivier Sulpice, que je connaissais puisqu'on se croisait dans les festivals ou autres, m'avait plusieurs fois proposé de monter une maison d'édition ensemble, monter un label, mais je pouvais pas, j'avais l'Enfest Mag, j'avais toute mon activité de scénariste, et puis quelqu'un chez Delcourt a pris la décision d'arrêter l'Enfest Mag, qui commençait là à perdre trop d'argent. Et donc, du coup, ça m'a libéré du temps. Donc, du coup, le jour où j'ai eu ce coup de fil qui m'a dit « on arrête l'Enfest Mag dans 6 mois », j'ai appelé tout de suite Olivier Sulpice. Je lui ai dit « écoute, si cette proposition tient toujours, je vais avoir du temps de libre pour m'occuper d'une maison d'édition, donc on peut y aller ». Bon, évidemment, j'avais complètement sous-estimé le temps que ça allait me prendre, puisque finalement, m'occuper de Dracou, ça me prend 3 fois plus de temps que l'Enfest Mag ne m'en prenait. Mais voilà. Les nuits sont courtes.
Oui, je me doute. Donc, nous allons faire une petite pause musicale, parce que comme je dis à chaque fois, c'est vrai que ça passe trop vite. Dites-nous le morceau que vous avez choisi.
Alors, Born Under Punches, des Talking Heads, sur l'album Remain in Light.
Impeccable.
80 ou 81.
Merci à toi, Armand.
Présence à Figeac, 97.7.
Thank you. Some of you people just about missed it.
Voilà de retour dans les Minutes Bulles que je consacre cette semaine à Christophe Arleston, le légendaire créateur de l'Amfest. Christophe Arleston, je reviens à... Je voulais poser la question, on n'a pas eu le temps tout à l'heure. J'ai trouvé une anecdote sur Google, vous allez m'expliquer. En 2000, les studios de cinéma UGC vous avaient contacté pour écrire le scénario d'un long métrage sur les Dalton avec Jamel Debbouze en guest star. Comment ça se fait que ça ne s'est pas fait?
Alors ça s'est passé, c'était une histoire longue et compliquée, c'était un de mes premiers contacts avec le monde du cinéma qui m'a permis d'apprendre énormément de choses, en particulier que le monde du cinéma n'était pas un endroit où on pouvait être très heureux. Alors à l'époque j'ai été contacté par UGC parce que justement à la demande de Jamel ils avaient acheté les droits des Dalton parce que Jamel voulait jouer Joe Dalton. Donc, ils avaient eu la bonne idée d'aller chercher un scénariste de bande dessinée, moi en l'occurrence. Et donc, voilà, on me dit, il faut faire un scénario autour des Dalton, un scénario original. Donc, je fais ce que je fais en bande dessinée, c'est-à-dire que j'écris mon scénario, et puis je pensais que le travail était terminé. Et là, je m'aperçois que le travail ne fait que commencer, parce que je me retrouve dans des réunions à la con avec des tas de gens qui donnent des tas d'avis qui me semblaient assez peu pertinents, des gens dont on savait pas vraiment qui ils étaient. Et puis, quand Jamel arrivait toujours en retard à la réunion, là, d'un coup, il regardait le scénario, il disait « Mais non, mais c'est très bien, c'est très bien !» Alors, tous ceux qui venaient de me descendre depuis un quart d'heure, ben, d'un coup, disaient « Ah oui, 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 c'est très bien, c'est très bien !» Voilà, enfin, c'était assez spécial. Et puis, un beau jour, en fait, ce qui se passe, c'est que Jamel venait de tourner le Astérix de Chabat, à ce moment-là, et le Astérix sort, a un énorme succès, et à ce moment-là, l'agent de Jamel lui explique « Si tu fais un Lucky Luke derrière un Astérix, tu vas être un peu trop catalogué. » Ce qui est pas faux, d'ailleurs, hein, comme raisonnement. Donc, Jamel dit « Bah, finalement, je fais pas le film. » Pour une question d'image. Et partant de là, moi, on me dit « Bah, écoute, s'il y a plus de Jamel, le budget est divisé par 4. Donc, tout le scénario que tu as écrit, il faut le réécrire pour 4 fois moins de budget. » Parce que au cinéma, quand on écrit une ligne, il y a un type qui fait une addition au bout de la ligne.
Oui.
Et ça fait ting. Alors qu'en bande dessinée, ça coûte une feuille de papier, un crayon. Et donc, on me dit, bah, finalement, ça va être Eric et Ramzy. En plus, ils ont leur équipe de scénaristes qui arrive avec eux. Mais si tu veux, tu peux quand même travailler avec. Moi, j'avais été payé très, 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 très bien payé, hein, je veux dire, parce que à l'époque, c'était... Bah, on m'avait dit combien tu veux. J'ai dit, écoutez, voilà, un lanceuse, ça me rapporte tant. Je veux pas écrire un film pour moins qu'un lanceuse. Donc, j'avais été payé, paraît-il, 2 fois plus que ce qu'était payé un scénariste au cinéma à l'époque. J'avais touché mes sous, j'ai dit, écoutez, bon, bah, non, j'ai pas envie de repartir dans des réunions pas possibles. Et c'est assez drôle, parce que quelques années plus tard, ils m'ont rappelé, pour écrire un Lucky Luke. À ce moment-là, moi, j'ai fait une proposition, puis ça a pas pu se faire parce que finalement, le réalisateur avec qui je devais travailler était pas libre, il avait un autre film à faire avant, enfin bon. Et finalement, c'est James Hutt qui a fait le Lucky Luke avec Desjardins. Alors que moi, j'avais proposé de faire le Pied Tendre avec Édouard Baird dans le rôle du Pied Tendre. Et je suis sûr que ça aurait été un film fabuleux parce qu'Édouard Baird dans le Pied Tendre à l'époque, il y a 20 ans, c'était tout. Voilà.
Oui, puis, oui. Édouard Baird, c'est, oui. Tout à fait. Donc maintenant, alors je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous demander, vous savez ce que c'est des portraits chinois ?
Oui, oui, oui.
Voilà, donc en fait, je vais vous poser quelques questions, ça me permet à chaque fois de découvrir l'auteur.
Très mauvais à ça.
Ah oui, à la plupart du temps que les auteurs m'ont dit ça, ils sont très bien débrouillés, ne vous inquiétez pas. Vous répondez au tac au tac, ce qui vous vient à l'idée. Donc, monsieur Arleston, si vous étiez une créature légendaire, vous seriez laquelle ?
Créature légendaire, je sais pas, de ces monstres qui sont toujours au coin du regard et qui disparaissent dès qu'on tourne la tête.
Ah, d'accord. Et si vous étiez, si vous possédiez un super pouvoir?
Maintenant que j'arrive à un âge plus ou moins avancé, mon super pouvoir, ça serait de pouvoir vivre le double de mon temps. Mais bon, non, mon super pouvoir, ça serait de ne pas dormir pour pouvoir arriver à travailler plus.
À travailler encore plus, oui. Si vous étiez un film de Spielberg.
Ah, alors ça, il y a beaucoup de...
Oui, il aimera du choix.
Film de Spielberg, évidemment. Oh, les aventuriers de l'âge perdu.
Ah oui, le classique, oui. Magnifique. Si vous êtes une invention.
Une invention. Je me verrais bien la vieille machine à écrire Remington des années 1900.
Ah oui.
Je pense que le moment où on a inventé cette machine, qui a tout cet imaginaire dans le polar et tout ça, et où on est passé de l'écriture à la main à l'écriture à la machine pour les premiers romanciers, enfin pour les premier romancier à l'utiliser, je pense que ça a dû être quelque chose de formidable.
D'accord. Alors, l'autre question, j'avoue, je sais même pas pourquoi je pose cette question, mais je la pose quand même. Si vous étiez un dieu grec, oui, je sais, c'est pas facile. Mais...
Ah, si j'étais un dieu grec, aussi, c'est facile, Dionysos, voyons.
Ah, d'accord. Oui, j'ai dit peut-être Apollon, non dieu, ouais.
Non, j'ai pas la prétention d'être Apollon, non. Je suis beaucoup plus lucide sur mon cas, et je crois que Dionysos est parfaitement adapté.
Et si vous étiez,
Je peux vous parler vin pendant 3 heures, si vous voulez, donc
d'accord.
Je tiens le rôle.
Si vous étiez une des sept merveilles du monde.
Une des sept merveilles du monde. Chien. Allez, le Colosse de Rhodes.
Ah oui, bien. Allez, les deux dernières, et après, malheureusement, on sera obligé de vous quitter. Ça passe vraiment trop vite, comme je dis à chaque fois, mais c'est la réalité. Si vous étiez une citation.
Une citation?
Oui.
Alors ça, je suis très mauvais en citation. Mmh. Je crois que c'est pas à moi qu'il faut poser cette question-là. Allez, une citation qui, voilà, va coller parfaitement à la profondeur littéraire qui va avec moi. Fais trois pas, Obélix.
D'accord. Et ensuite, pour finir, donc, si vous avez, c'est une question aussi, c'est si vous aviez encore des rêves, qu'est-ce qui vous reste encore des rêves à accomplir?
Ah ben, mon rêve, c'est toujours le même, c'est pouvoir écrire des histoires, continuer à inventer, aller plus loin. J'ai tellement de bouquins, tellement de projets, tellement de choses que j'ai envie de développer, et une telle frustration du manque de temps. Voilà, c'est mon rêve, c'est vraiment de pouvoir continuer à être en bon état suffisamment longtemps pour écrire tout ce que j'ai à écrire.
Oui, je me doute. Et alors, pour finir, j'aimerais quand même revenir un peu sur Draco, sur ce qui va se passer pour Draco en 2024. D'ailleurs, pour l'info, j'interviewe Étienne Willem en février. Il est de chez vous, lui.
Oui, tout à fait. C'est le Paris des Merveilles et les Artilleuses avec Pierre Pével, un célèbre romancier. Puisque c'est vrai que ça a été une de mes idées de départ chez Draco, d'aller chercher des romanciers et de leur apprendre à faire de la BD. Je me suis dit, voilà, on monte pas une nouvelle maison d'édition pour faire travailler toujours et encore les mêmes scénaristes, quel que soit leur talent, hein, mais qui sont déjà chez Dargaud, chez Delcourt, chez Glénat, au Lombard, chez Dupuis. Voilà, il y a quelques scénaristes qui sont à peu près partout. Donc, je vais à la fois chercher des jeunes, mais j'avais besoin aussi de gens ayant des épaules, ayant un talent confirmé, mais pas forcément en bande dessinée. Donc je suis allé recruter Pierre Pével, Olivier Gay, Gabriel Katz, Aurélie Wellenstein, voilà, et je suis allé chercher du côté des romanciers en me disant, la technique du scénario de bande dessinée, c'est quelque chose que je peux leur apprendre, parce que voilà, je le maîtrise, le fond, ils l'ont, et puis finalement, ça a été une super idée, puisque avec ça, on a quand même pas mal de séries qui marchent très bien maintenant chez Draco. Et voilà, on a Rudy Wellenstein qui fait entre autres Equinox, qui est un carton, avec Audrey Alouette, le Grimoire d'Elphi, évidemment, qu'on écrit à deux, ça marche très très fort, puisque là c'est vraiment la grosse locomotive de la maison. Mais elle écrit toute seule aussi le Jardin des Fées, qui marche très bien. On a, enfin voilà, je suis vraiment un éditeur heureux et comblé. Et là, on a en début 2024 une nouvelle série qui s'appelle Léonard, avec Isabelle Bottian au scénario, et où tous les indicateurs nous montrent que ça devrait très très bien se passer, parce que tous les gens qui ont lu le bouquin l'ont adoré. Voilà, et on sent un frémissement. Et j'espère que tout va très très bien se passer pour Léonard, mais je suis confiant.
Eh bien, je suis confiant aussi pour vous, il n'y a pas de souci. Je vous remercie, Monsieur Arleston, c'est malheureusement fini. Si vous voulez dire peut-être un petit dernier mot.
Oh, un dernier mot, oui, lisez des livres.
Oui, et tant qu'à faire Draco, et même Bambou, pas oui Bambou, parce que voilà.
Oui, oh, ben, non, lisez. Ah, de toute façon, lisez du roman, lisez de la BD, lisez de tout, voilà. N'ayez pas peur de lire, c'est surtout ça qui compte.
Eh bien, on va rester sur ces belles paroles. Merci à vous, Monsieur Arleston. En nous retrouvant donc la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Émilie une bulle. Merci à vous et à la
Merci.
Prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.